Bonsoir.
Salut.
Oh bah Sébastien, on t'entend pas beaucoup, hein.
Là, on m'entend mieux.
Ouais, carrément. J'espère qu'on va entendre ta voix pendant cette émission. Est-ce que tu vas nous faire gagner des cadeaux ce soir?
Oui, spécialement de 404 éditions avec qui j'ai l'habitude de collaborer pour vous présenter de bons livres-jeux de leur part. Donc on va avoir notamment l'Escape Box 404, donc ça, de Gauthier Wendling. C'est un spécialiste des Escape Box, comme tu sais, Romain.
Oui, on l'avait interviewé d'ailleurs. C'est toujours dispo en podcast sur notre page, sur le site de Radio G.
Voilà. Et ça, donc, c'est une escape box qui reprend le personnage effrayant.
Ouais, alors, dis pas trop de trucs, parce que j'ai posé une question dessus.
Ah,
et Gauthier, donc, on a reçu au Salon Imaginaire, c'était il y a quoi, 10 jours, là? Je sais plus, je suis perdu, moi. Ouais, bref. Voilà, les 27-28 novembre.
Ouais, c'est ça.
Et puis, on a aussi un jeu de société Osirium, donc par Alain Puységur, qu'on a aussi reçu au Salon Imaginaire.
Donc, le thème, c'est les dieux de l'Égypte antique.
Et puis, un livre-jeu Assassin's Creed.
Ah, c'est pas un livre-jeu, c'est un roman médiéval qui est rattaché à la saga Assassin's Creed, toujours d'Alain Tépoin, Puységur.
Ouais, dont on avait déjà parlé aussi dans cette émission.
Le 30 novembre sur Il faut sauver Noël et son scénario de la BD Connexion Evo.
Alors, le gros morceau de cette émission, ce sera l'interview de Christian Léourier qu'on a faite aux Utopiales il y a un mois. Et puis, la chronique de Karine et puis celle de Sébastien. Alors on va commencer par faire gagner un premier lot. Donc on va commencer par l'Escape Box ça. Alors pour vous la faire gagner, on va essayer la nouvelle fonctionnalité du site de Radio G, c'est le chat. Donc en fait, vous connectez sur radio-g.fr et vous cliquez juste en bas sur chatter. Le petit rectangle vert et on est là. Et donc, je vais poser une question. Et donc, l'escape box, ça. Donc, ça, c'est, alors c'est précisé chapitre 2 d'ailleurs. Donc, j'imagine que ça fait référence, vu la couverture, plutôt au film. Mais cette série de films, on va dire, il y a eu les téléfilms aussi avant.
Oui, les téléfilms.
Est tirée d'un double roman, si on peut dire. Je ne vais pas dire quel est le nom de l'écrivain. Donc, de ces romans, ça. Paru dans les années 80. N'hésitez pas, donc tout de suite, vous vous rendez sur le chat, sur le site du Radio G pour nous donner la réponse. Et on vous donnera cette grosse escape box avec trois scénarios, je crois.
Ouais, c'est ça.
Par Gauthier Wendling. Quelle est votre plus grande peur? Trois escape games, en fait. Et il y a aussi une bande-son.
Il y a une bande-son qui accompagne.
Qu'on aurait dû mettre là, en fond, là. Ça nous aurait mis dans l'ambiance. Et puis, ce sera à retirer, donc, ici, à Radio G. Alors, vous pouvez donc nous donner la réponse. Qui a écrit ça? Et en attendant, on va s'écouter un morceau de Guild of Lore. Alors, les Utopiales, je vous avais conseillé d'aller voir un film d'animation qui s'appelle The Spine of Night, qui était en compète, qui avait dû passer le samedi midi. Non, Karine, t'étais partie faire des interviews, comme celle qu'on entendra tout à l'heure. Et j'ai eu film que j'ai raté, je suis un petit peu écœuré, parce que film américain qui n'a été projeté que dans quelques festivals, mais en fait, il est visible sur Amazon.
Ouais.
Et j'ai eu la joie de découvrir que la BO était faite par Francis Roberts et Guild of Lore, qui sont un peu deux stars, on va dire, de la nouvelle scène Dungeon Synth américaine. Donc on va s'écouter un extrait de la BO par Guild of Lore sur le 7 titre donc, qui vient de sortir sur sa page Bandcamp et donc consacré à la musique de ce film d'animation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, sur le site de Radio G pour gagner la boîte Escape Box sur le 101.5. sur le 101.5. Un extrait donc de la BO de The Spine of Night, son nouveau 7 titres qu'on trouve sur sa page Bandcamp à prix libre, avec une jolie pochette. Là, il s'est vraiment mis en mode fête de fin d'année. Il y a des sapins sous la neige et une harpe glacée devant un étang glacé, je crois.
Ça donne envie.
Ouais. Et... On vous a pas dit un truc sur les cadeaux qu'on fait gagner ce soir, c'est qu'ils sont dédicacés,
oui,
par leurs auteurs.
J'ai eu des dédicaces donc au salon de leurs auteurs respectifs, Alain T.Puisségur, à Gauthier Wendling, donc des mots surprises en plus.
Allez, c'est l'heure de la chronique de Karine dans Imaginaire sur le 101.5.
Donc je vous retrouve avec le roman de Richard Cooper, Le crépuscule de Briarus, aux éditions Argile, fondé récemment en 2020 par Xavier Dolo et Simon Pinel. Lors de l'explosion de la supernova Briarus Delta, des catastrophes naturelles s'enchaînent et les humains se découvrent stériles. Ils perdent tout repère car ils ne peuvent trouver un coupable. En effet, il s'agit d'un phénomène naturel, donc pas de contrôle possible. En conséquence, le gouvernement va vouloir comprendre et remédier à ce problème, allant jusqu'à faire un génocide. Génocide d'individus qui, ayant été affectés par l'explosion d'une manière ou d'une autre, ont des capacités presque télépathiques. Les femmes sont les plus touchées et vont être kidnappées et inséminées pour qu'elles mettent au monde des enfants sains. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Aucune solution ne semble possible et cela engendre une déshumanisation de la société qui va vouloir perdre une partie de sa population pour sauver l'autre partie. Et tout cela, bien entendu, est fait dans le plus grand des secrets. Les autorités inventent des excuses et la population accepte sans vraiment broncher. Il n'y a qu'un scientifique, Angus McCarthy, qui va tenter de raisonner le gouvernement. Dans son récit, Richard Cooper met donc en lumière les erreurs que peut faire la science et leurs enjeux. Également, il dénonce le manque d'éthique dont la science peut faire preuve. À travers le personnage principal, Calvin Johnson, on suit tout ce qui va se passer et la réflexion de Cal à travers son journal. L'auteur s'inspire de beaucoup d'ouvrages, notamment 1984 de George Orwell. Richard Cooper, de son vrai nom John Middleton Murray, J.R., était un auteur britannique connu pour ses romans en littérature blanche sous le nom de plume Colin Murray. Son roman est paru en 1974 à l'origine et a été traduit par Claude en 1976 dans la collection Présence du futur de Noël. Les éditions Argile ont donc réédité ce récit cette année avec une traduction revisitée par Pierre-Paul Durastanti.
Pierre-Paul Durastanti.
Voilà. Ils ajoutent à ça une postface de Christopher Priest et une interview de Richard Cooper en fin de roman qui est très intéressante. Je vous invite donc à faire ce voyage au cœur d'un monde apocalyptique, si réel, et à redécouvrir ou découvrir la magnifique plume de Richard Cooper qui nous emporte dans ce récit avec beaucoup de poésie, d'humanité et d'émotion. Une véritable pépite. Et maintenant, je vous propose...
Attends, ouais. Enfin, si, tu peux les annoncer.
Maintenant, je vous propose d'écouter la chanson « Cetus » Alizia du groupe local Bansid.
Ouais, et d'ailleurs, il y a un featuring, il y a quelqu'un d'Eluvici quand même sur cette chanson. Ils ont fait fort les Angevins pour aller débaucher
les
musiciens du groupe folk metal, plus célèbres, quoi. Enfin, je crois que ce sont des Suisses, il me semble, Eluvici. Ouais. Et quand même, je voulais dire la couverture du livre, puisque j'ai mis sur Facebook tout à l'heure la couverture du roman de Christian Leroux qui est sorti. Chez Argile, l'interview qu'on va écouter en fin d'émission. Et en fait, elle m'a beaucoup fait penser à la couverture de celui-ci, là. Fait, les éditions Argile ont un peu, on va dire, une charte graphique assez particulière, non?
Oui, j'ai l'impression, en tout cas. Et puis, franchement, elles sont très, 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 très belles, très travaillées, je trouve. très subtils aussi dans leur graphique. C'est sympa.
On va profiter donc de cet intermède musical pour vous faire gagner un deuxième cadeau. Donc c'est le jeu de société, cette fois Osirium d'Alain Tépuis-Ségur, sorti aux éditions 404, qui se lance un peu dans le jeu de société. Hein. Oui. C'est 404 On Board, je crois qu'il n'y a que 4... deux jeux qui sont sortis, je crois.
404 On Board, ouais, c'est tout nouveau.
Il y a eu Vol de Nuit, oui. Donc lointainement inspiré peut-être de Saint-Exupéry, hein. Ouais. Et puis Osirium. Mm. Et donc, cette fois, la question, donc on va dire Osirium, le jeu fait référence à une divinité égyptienne.
Voilà.
Laquelle ?
À vous de le savoir. Et je tiens aussi à souligner que pour ceux qui sont un peu feignants pour lire les règles, vous avez une vidéo très bien faite et distrayante de Québécois, tiens, très bien, de Etugem.
Ah ouais, ouais.
Voilà, connectez-vous sur YouTube, vous allez à la fois rire et bien comprendre les règles du jeu.
Et donc, vous pouvez nous donner la réponse sur le chat en allant sur le site de Radio G. Sinon, vous pouvez aussi nous téléphoner au 02 41 60 47 47 pendant ce morceau donc de Bandits. J'arrive pas à le dire.
Bandits.
Ok,
moi,
ça marche.
Moi, je dis Bandits, en tout cas, je ne sais
bah,
pas si
disons
c'est...
ça dans l'imaginaire sur le rein. 5. totalement ça. Allez, c'est l'heure de la chronique de Sébastien dans Imaginaire sur le 100.5.
Coucou les amis, donc là j'aurais pas mal de choses à vous conter. On va commencer directement par Carnage. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller visiter leur site zone52.home. Donc en idée cadeau atypique, vous avez...
Ah oui, ça.
Encore plus atypique, c'est qu'on a un pack Noël romain disponible, mais que jusqu'au 24 décembre. Donc pressez-vous les amis. Et ça porte sur leurs trois derniers cours romans horrifiques. Donc on a donc Baby Trap, le troisième, Cosmos Cannibal, le quatrième, et Guana Massacre, dont tu nous as apporté un exemplaire en studio. Donc la particularité de Carnage aussi, c'est que ça s'écrit au début avec un K. Moi je comprends que c'est un K comme pour dire kill.
Ouais, peut-être.
Voilà. Alors volontiers, je vous en cause ce soir, car en 2022 à venir, Jérémy Grima, qui est l'auteur donc de Cosmos Cannibal et l'éditeur, donc, eh bien, nous l'aurons en duplex audio pour exposer donc avec lui les sillons de l'horreur que sa collection emprunte. Et ce, après Gore, que tu connais très bien, donc Romain, que Jean-Hugues Villacampa a défendu bec et ongle donc, dans sa bouquinerie.
Mais c'est vrai, il y en avait pas mal, ouais.
Ainsi que Trash, donc Trash qui a été exposé pour la première fois donc, à Phénomène J, donc de Jean-Hugues Villacampa, que je salue. Donc des défunts de collection, mais où le sang coulait autant que l'encre pour frapper la rétine de votre imaginaire. D'ailleurs, Romain, toi qui es amateur d'horreur, tu m'as dit également que tu as donc souscrit à une campagne pour avoir un certain slasher dont vous êtes le héros. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Et je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas lu.
Pas encore. Et
c'est vrai, je crois qu'on en avait parlé dans cette émission. C'est des gens dont on aime bien le travail. Il me semble que c'est Pulse, les Parisiens, qui ont lancé cette campagne, mais le but était quand même de financer participativement un livre sur le slasher, hein. Donc le film de tueur au couteau, on va dire américain des années 80. Et le livre dont vous êtes le slasher était un genre de bonus un peu au début, enfin, qui avait été. Et ouais, moi j'ai pris que le livre dont vous êtes le slasher. En fait, je suis pas hyper fan non plus des films slasher. Mais là, l'intérêt de ce livre-jeu, c'était d'incarner le tueur. Mais on avait déjà dit dans cette émission que c'était pas nouveau. Par exemple, dans Hôtel Mortel de Gauthier Wendling, dont on parlait tout à l'heure, on incarne tour à tour, en fait, une victime et un célèbre serial killer.
Le premier serial killer.
Hein. Ouais. La collection Carnage, d'ailleurs, le G est repris sur le G de Gore, hein, donc c'est vraiment une référence. Toutes les couvertures, on parlait des couvertures d'argile tout à l'heure, mais là c'est pareil chez Carnage, il y a, on va dire, une unité graphique, c'est Will Argunas, dessinateur, qui fait toutes les couves, et il était à Angers BD il y a 10 jours, donc peut-être que les Angevins ont découvert cette collection à l'occasion de ce salon. J'ai lu les deux premiers, je vous ferai peut-être un bilan un peu plus tard, enfin voilà.
J'ai une petite question quand même pour mettre en appétit donc nos auditeurs. Comme tu le sais, donc Acid Cop, le deuxième, il est sold out. Donc ça a été annoncé sur la page Facebook donc de Carnage. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que Acid Cop est de la plume de Zaroff et qui a également écrit des trashs, deux, je pense.
Ouais.
Et j'aimerais savoir, Romain, brièvement, en fait, quel changement toi tu vois dans l'écriture de Zaroff entre Trash et Carnage? Est-ce qu'il y a plus de sang, plus de mort?
Par rapport à Acid Cop, il y a peut-être un petit peu plus d'amour.
Ah, c'est de l'amour.
Excusez-moi, là, c'est un lapsus d'humour, je voulais dire, un peu plus d'humour. Peut-être un peu plus d'humour. Il avait écrit Bayou chez Trash, qui était quand même bien, bien déjanté. Je me rappelle plus du titre. C'était un roman qui reprenait d'ailleurs aussi une histoire vraie d'un serial killer, Ramirez, je crois, qui sévissait, je crois, à la fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis, qui était un fan d'ACDC, comme Zaroff d'ailleurs. Et voilà, il y a, je dirais, dans Acid Cop, peut-être plus d'humour. Et alors aussi, Il a fait l'effort d'avoir un livre peut-être plus référencé cinéma d'action des années 80, quoi. Après, bon, ben voilà, on pourra l'interviewer aussi et puis lui demander comment il a vu les choses.
Et on aura aussi donc le plaisir d'avoir Jérémy Grima, à l'antenne. Donc, pour vous parler un peu plus encore de Carnage.
Et si je devais quand même je pourrais comparer Carnage aux collections Trash et peut-être Gore avant, jusque-là. Enfin, moi, j'ai lu que les deux premiers, il y a aussi plus de cul dans la collection Carnage qu'il n'y en avait dans les collections Trash et peut-être même dans les Gore, même si là, on avait les choses qui partaient un peu plus.
Pourtant, Nécroporno, mais le
oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais bon,
de Robert Narvel, qu'on
si
salue.
Dire un peu sur une moyenne. J'ai l'impression que là, bon, voilà. Mais on verra. Le dernier, là, Goanna Massacre, a l'air plus, ça a l'air beaucoup plus classique déjà.
Alors, de l'horreur, les amis, que vous allez retrouver également donc, dans notre anthologie Orient Extrême. Donc, il y a quand même des nouvelles quand même, qui font froid dans le dos. Donc, n'hésitez pas également à la commander donc, sur notre site au prix de 17€. Et pour le pack Noël donc, de Carnage, qui regroupe Baby Trap, Cosmos Cannibal, Goanna Massacre, un prix d'amis 22,50€. Mais que jusqu'au 24 décembre.
Ok.
Et là, j'en viens maintenant.
Bon, pour lecteurs très avertis, quand même.
Pour très avertis, ouais. Voilà, mais qui aiment les sensations fortes.
Voilà.
Alors, j'en viens maintenant à d'autres terreurs, des terreurs boréales sur Radio G, donc d'un auteur amateur, Loakimar. Donc, c'est son deuxième écrit. Et vous pouvez le retrouver donc sur literaction.fr. Donc, c'est un site qui regroupe des aventures interactives en branchement donc, de différents auteurs, en majorité francophones, des auteurs qui se disent amateurs, mais qui ont vraiment un don pour bien écrire et qui même passent, tiens-toi bien Romain, même professionnels, puisqu'ils sont après publiés par Alconost, Posidonia, des maisons d'édition associatives, donc, dont j'avais parlé déjà précédemment. Donc pour Loakimar, Terreur Boréale, il a reçu un prix, le Mini-Yaz de bronze, parce qu'en fait c'est une mini-aventure interactive qui fait 50 paragraphes. Que 50 paragraphes, vous allez me dire, mais ce qui m'a stupéfié, vraiment, c'est qu'en fait, en 50 paragraphes, il arrive à raconter une superbe histoire, vraiment. Donc pour vous préciser, on est un trappeur dans les forêts de la terre de Rupert, des contrées sauvages canadiennes, à peu près dans la deuxième moitié du 19e siècle, et il y a une aurore boréale, le soir on se couche, donc voilà, il y a une aurore boréale qui est annonciatrice d'un phénomène surnaturel lié à la légende de la chasse-galerie. Il y a eu un film d'ailleurs québécois sur la chasse-galerie en 2016. Alors la chasse-galerie, pour faire bref, en gros, imagine-toi Sicarine, il y a un canot qui flotte dans les airs avec des rameurs damnés. Et on croit que le diable, en fin de compte, les guide pour poursuivre des âmes innocentes sur Terre.
D'accord.
Et donc, moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Là, on est le trappeur, et là, d'entrée, on rentre dans le jeu, et il y a un canot qu'on voit dans les airs et qui nous poursuit, en fait.
Mm-hmm.
Et il y a un point des règles, naturellement, qui va prendre tout son sel. On a un compteur de points d'avance. Au début, on en a 18. Et si, par malheur, on tarde, eh bien, notre avance se réduit font comme neige au soleil. Enfin, pas tant que ça quand même, parce que je me suis aperçu que le danger n'est pas tant le canot qui nous poursuit, que aussi les autres créatures démoniaques qui vont se joindre au canot pour nous, vraiment, pour essayer de nous avoir. Bon, je vous en dis pas plus.
C'est tiré de légende indienne, du coup ?
C'est tiré d'une légende canadienne.
D'accord.
Voilà, la légende de la chasse-galerie. Et ça a trait aussi au péché, parce que, bon, je veux pas en dire trop.
Ouais.
Parce que le personnage peut se retrouver, on va dire, coupable de quelque chose. Il va falloir éviter justement qu'il passe à l'acte. J'en dis pas plus. Alors, on n'a pas de Cro-Blanc, Karine. On a Cro-Noir, un chien de traîneau, donc le chef, on va dire, du traîneau. Et Cro-Noir, il a ce que j'apprécie dans cette histoire donc, de Loakimar. Il a un très beau rôle. C'est un héros, un peu comme Cro-Blanc, en fait. Et il a autant d'importance que le personnage de trappeur qu'on joue. Donc, je vous ai dit qu'on passe un peu de Caribe dans Sia. On arrive aussi dans une zone au paragraphe 13 qui est très bien écrit, la tourbière des Saint-Martyrs. Donc, j'en dis pas plus, mais on va avoir des émanations spectrales qui vont un peu nous entourer et essayer de nous de nous envelopper, de nous attraper. Donc il n'y a pas que le canot en fait qui nous poursuit. Et moi, ce que j'apprécie avec Loi Quimard, c'est que 50 paragraphes, les amis, il y a, comment dire, il y a 7 fins. 3 fins où on échoue. Non, 3 fins où on réussit, 4 fins où on échoue. Donc 50 moins 7, ça fait 43. Sachant qu'on part du paragraphe 1, il reste que 42 paragraphes en embranchement pour arriver à ces différentes fins. Mais on n'a pas l'impression vraiment d'une aventure courte. Et on a aussi énormément de choix. Il y a un pouvoir d'évocation réel de l'auteur et qui réussit pour moi un coup de maître et qui mérite vraiment amplement ce mini yas de bronze.
C'est quoi le yas d'ailleurs?
Alors le yas, c'est une récompense. Il y a l'or, l'argent et le bronze. Et ça permet de récompenser des bonnes plumes sur un thème comme là, c'était la traque en 2021.
Ah oui, d'accord, il y avait quand même un thème. Okay.
Et Loi Quimard, donc, qui est officier au Scriptarium, il a également écrit Un jour sans fondement, qu'on retrouve également sur litteraction.fr. Et là, il avait eu le mini-yaz d'argent.
D'accord. Et du coup, elles sont gratuites alors?
Elles sont ouvertes à la lecture de tout le monde en PDF, avec des liens cliquables.
Voilà, donc c'est des PDF interactifs, donc interactif, on va de chapitre en cliquant. Quoi.
Voilà, et on clique et tout. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est... Il le fait pour le plaisir, ouais, mais avec vraiment un professionnalisme.
Bon, il sera peut-être édité aussi.
C'est possible, comme certains l'ont été sur Litteraction.
Ok. On écoute ta chanson. Est-ce qu'on fait gagner encore ce livre-là que j'ai?
Alors ça, c'est Assassin's Creed. Donc ouais. C'est le deuxième d'une série, Fragment, donc, qu'on peut rattacher à la saga donc Assassin's Creed. Donc écrit par Alain Tépoin-Puisségur, qui est vraiment un fan absolu de cette saga. Et je vous le recommande chaudement. En plus, c'est un roman médiéval qui explore une époque peu connue. Une sorte d'insurrection écossaise.
Une guerre d'indépendance en Écosse.
Écosse. Donc en même temps, on apprend et on se distrait.
On pose une question pour le faire gagner, alors, dans l'imaginaire. Est-ce que je peux demander à quel éditeur de jeux vidéo est attaché à l'édition de ce livre? Parce que c'est tiré d'un jeu vidéo.
Bonne question.
Éditeur français, je crois. Hein. Ça commence par un U. Je donne un gros indice.
Dur.
Donc vous pouvez nous appeler au 02 41 60 47 47 ou sur le chat de Radio G. Et on va écouter ta musique. C'est quoi, Sébastien?
Alors après le Canada, les copains, je vous emmène dans un autre lieu du continent américain en musique avec le groupe d'Ecties Missing Persons pour leur séduisante et tonique marche Walking In. Elle est sur le 101.5, les points cardinaux de toute la musique que vous aimez.
Et après, on s'écoute l'interview de Christian Léhourier.
Walking in a day.
temps d'écouter en entier ce morceau des Missing Persons, groupe de New Wave américain, dont la chanteuse était une playmate. Tu le savais ça, Sébastien?
Non, ça, je savais pas.
Allez, on passe à l'interview de Christian Léourier tout de suite sur le 101.5, interview réalisée aux Utopiales il y a un mois par Pierre-Marie et Romuald.
L'association Imaginaire est toujours présente aux Utopiales et se retrouve avec un auteur mythique de l'imaginaire français, Christian Léourier. Mythique parce qu'on parle souvent de toi dans les milieux connaisseurs de l'ASF, mais on ne te voit pas souvent. On a du mal à t'apercevoir. Ça fait combien de temps que tu travailles dans l'ASF ?
Oh, ça fait une cinquantaine d'années quand même.
Ça va,
oui,
t'as un petit jeu.
Je commence à avoir une petite expérience. Alors, on ne me voyait pas beaucoup, on ne me voyait pas beaucoup parce que j'avais une activité professionnelle à côté. Et une activité qui était très prenante, donc je n'avais pas trop le temps. Et puis, il y a aussi de ma part peut-être des accès de mauvais caractère. À un moment donné, le milieu de l'ASF devenait assez puant, donc je m'en suis éloigné. Et là, je reviens depuis 5-6 ans.
Est-ce que il y a un événement qui te fait revenir, ou c'est juste...
Alors, l'événement, en fait, c'était la réédition du cycle de Landmeur chez Ad Astra, qui m'a fait connaître à une nouvelle génération de lecteurs. Les jeunes générations ne me connaissaient absolument pas, parce que les derniers romans de SF adulte que j'avais fait, c'était dans les années 90, donc je suis revenu dans les années 2010-2015.
Le cycle Landmeur, donc ce sont 7 tomes qui sont sortis entre 84 et 94 et réédités par Ad Astra en 4 tomes, dont le dernier ce sont des préquels entre 2011 et 2015. Ces dates-là, ce ne sont pas le début de ton carrière d'auteur, puisque tu as commencé les romans en 72 et les nouvelles en 76, ce qui te fait déjà une très très grande carrière. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ce que tu as écrit, des choses qui sont réellement importantes pour toi ?
Alors c'est assez difficile de choisir parmi ses enfants. Hein. Bon, des choses importantes, il y a le tout premier, parce qu'effectivement, je ne savais pas que je pouvais le faire, donc... Pour un auteur, c'est toujours important, le premier roman.
Est-ce que tu peux rappeler ce que
c'est? Les Montagnes du Soleil, donc, qui sont parues chez En Ailleurs et Demain, chez Lafon. Et puis, disons que je ne renie aucun de mes livres. J'en ai oublié beaucoup. parce que j'ai une faculté pour oublier ce que j'ai écrit qui est assez... Je ne suis pas le seul, donc c'est pas du vieillissement précoce. Mais je me souviens plus des circonstances dans lesquelles ces romans ont été écrits, et donc ça me ramène à certaines préoccupations, certaines périodes plus ou moins heureuses.
On parlait de la rééditions, notamment du cycle de Landmeur, mais tu continues à écrire de nouvelles choses, puisque chez Critique, en 2019 et 2020, tu as sorti un diptyque, Elstrid, dans la collection Une heure lumière, qui a d'ailleurs été récompensé par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2020,
oui.
Et par un Ron Yenné, si
oui.
Je ne me trompe pas.
Et puis les Utopiales.
Et puis les Utopiales. Bon, les Utopiales, c'est des petits, c'est pas très important. Tu as une réédition d'une de tes grandes séries sortie en 74-78, qui est la série Jarvis, sortie en 6 tomes, qui ressort. Et puis, dans 3 semaines, tu as une nouveauté qui sort encore.
Un roman historique.
Un roman historique.
Oui.
Première fois ?
Alors, la première fois pour adulte, oui. J'avais déjà, pour la jeunesse, j'avais déjà écrit quelques romans historiques, mais pour adulte, c'est la première fois. Bon, j'arrive à un moment de ma carrière où je commence à avoir un peu d'aisance dans l'écriture, donc j'essaye de me diversifier. Donc effectivement, le diptyque que tu évoquais, c'est de la fantasy, c'est pareil, je n'en avais jamais fait avant. Et puis, ce roman historique qui nous entraîne au XVIIIe siècle.
Une époque particulière pour toi ou...
Oui, parce que c'est une époque de transition. Qui n'est pas sans analogie avec un autre. C'est la fin du 18e, hein, ça se passe entre l'indépendance américaine et la Révolution française.
D'accord.
Et c'est une période où le monde bascule dans ce qui va devenir le 19e siècle, et qui impacte encore notre quotidien et notre façon de voir les choses.
Tu parlais de transition et moi je fais un parallèle avec Elstrid, qui pour moi est un roman, pas monument, mais qui est extrêmement marquante, puisque bah, je suis un peu plus jeune que toi, et donc tout ce que tu as sorti, c'est une sorte d'aboutissement. Dans ce roman-là, la transition est faite, et l'être humain devient inutile. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, l'être humain devient inutile, sauf sur un point, parce que, effectivement, Elstrid se passe sur une planète particulièrement hostile, où les machines sont beaucoup plus... à la fois performante mais en même temps moins difficile à gérer que les humains, mais on envoie quand même des hommes sur une base parce que pour la valeur symbolique, et c'est en cela que l'humain reste quand même significatif, c'est-à-dire que les machines certes seront certainement si on poursuit la conquête spatiale, ce seront les principaux acteurs. Mais il ne faut pas oublier que derrière, effectivement, il y a les hommes. Donc c'est pas une condamnation de l'humanité, Strin. C'est au contraire l'affirmation de la dignité de l'homme qui accepte de jouer son rôle jusqu'au bout.
Est-ce que tous les lecteurs, ils ont la même lecture justement de cette entre guillemets morale à cette histoire, ou il y a des lecteurs qui ont vu autre chose ?
Ah ben non, mais chaque lecteur est libre de son interprétation et de sa lecture.
Et particulièrement pour Elstrid, il y a eu des retours particuliers ?
Alors j'ai eu des retours disant je vais pas dévoiler la fin, mais j'étais surpris par la fin, ou j'étais déçu par la fin, ou j'étais... Voilà. Mais encore une fois, et c'est vrai pour, pas seulement pour Essay, mais pour tous les romans, y compris quand moi je suis lecteur, je suis bien persuadé que je projette sur un texte mes préoccupations, mes interrogations, mes doutes, mes embryons de réponse, et que je surinterprète ce que je lis. Donc, il est évident que mes lecteurs font la même chose. Mais ça ne nous gêne pas. Un roman, c'est un peu une bouteille qu'on jette à la mer. On ne sait pas dans quelle main elles vont tomber.
Tu as écrit, comme tu disais, comme on le disait, dans la science-fiction, dans la fantasy, pour la jeunesse. Là, tu parles sur l'historique. Est-ce qu'il y a un thème, on va dire, ou un genre sur lequel tu te sens plus à l'aise, ou est-ce que ça dépendait de ton évolution ?
Alors, le choix de traiter en science-fiction ou en historique est déterminé par ce que je veux dire au moment où je veux le dire. Alors, c'est vrai que la science-fiction, c'est un peu, surtout la science-fiction telle que je la pratique, c'est principalement du Planète Opéra, c'est un peu un couteau suisse, c'est-à-dire ça permet de traiter d'un peu de tout. Mm-hmm. Mais c'est peut-être parce que justement c'est ma zone de confort que j'ai souhaité ces derniers temps me diversifier un peu.
Ta série là, que j'ai lue juste avant Elstrid et qui la précède un petit peu, c'est La Lyre et le Glaive.
Oui.
Série de fantasy dont on parle depuis tout à l'heure. Le rythme est un peu soutenu. Elstrid, c'est un roman d'attente. C'était une volonté ou ça s'est fait comme ça ?
Non, je crois que le... Bon, Elstrid, c'est un roman d'attente parce que c'est son... effectivement, c'est linéaire, c'est... voilà. Et c'est... Bon, ce que j'avais en tête en écrivant Elstrid, c'était le train sifflera trois fois. Alors, ça n'a pas grand rapport, mais l'idée, c'était un petit peu d'avoir comme ça une action qui se continue dans le temps, sans interruption, sans... une sorte de sans retour. Il y a des retours en arrière, mais ils sont immergés dans le présent. Mm-hmm. Pour la lire à le glaive, c'était plus un petit peu le code du genre que d'avoir de l'action, que d'avoir des péripéties, des retournements. Mais on m'a reproché sur ce texte de prendre mon temps pour installer les personnages quand même.
Voilà. Oui, mais c'est ça arrive en même temps que le roman, et il y a de l'action qui parsème dans ton Astrid. Tu parles du train qui sifflera trois fois. Moi, j'y ai plutôt vu la route de Kerouac, où on a l'impression que l'écriture a été écrite d'une seule traite.
C'est loin d'être le cas. Plus le temps passe, plus j'écris lentement. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus je corrige ce que j'écris. Donc il y a de fréquents retours en arrière. Mais l'idée, c'est effectivement que ça ne se voit pas.
Bah, du coup, c'est plutôt réussi. Et en gardant la temporalité, la fantasy a un rythme dynamique, la science-fiction a un côté prospectif beaucoup plus intellectuel et posé, et le roman historique, puisque tu y viens, comment tu joues ?
Là, c'est un roman d'action, hein. Il se passe beaucoup de choses. Mais finalement, il n'y a pas une différence fondamentale entre un roman de science-fiction et un roman historique. Ce qui est important, ce n'est pas tant ce qui s'y passe que de décrire le contexte social, comment un personnage est influencé, plus que influencé, est déterminé par la société qui l'entoure, comment à son tour il réagit avec elle, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une rupture, s'il y a un accident. J'ai choisi effectivement une période, la fin du 18e, où il y a énormément de ruptures. Hein. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, la grosse différence, c'est que le roman historique nécessite un travail documentaire plus important. Science-fiction, on crée une planète, on est libre de son imagination, à condition qu'elle soit évidemment cohérente avec les lois de la physique. Mais pour le reste, on peut imaginer ce que l'on veut.
Quel travail de documentation as-tu fait pour ce roman ?
Oh, je ne sais pas, j'ai lu 172 bouquins.
C'est petit quand même. Ouais. C'est à peine le double de ce que tu as écrit. Pour rappel, en 72, tu écrivais ton premier roman. En 74, tu as commencé une série jeunesse, Jarvis. Ouais. 74, 78, 6 tomes. Ça ressort ?
Oui, ça ressort en intégrale, avec un 7e inédit. Alors, inédit parce que la collection qui supportait ces textes a disparu, donc le dernier volume n'a jamais vu le jour. Mm-hmm. Donc là, ça ressort en une seule intégrale. C'était Hachette qui m'avait... c'était une commande. Il était venu me chercher pour créer une... Hachette créait une nouvelle collection pour faire suite à la Bibliothèque Verte. On ne parlait pas à l'époque encore de littérature pour ados, encore moins pour young adults, mais c'était ça, c'était en gros les années collège, et il cherchait des textes de science-fiction, donc il m'avait fait cette proposition au vu de quelques nouvelles que j'avais publiées dans Fiction.
Ce sont, comme on vient de le dire, c'est une série qui est sortie en 74-78, 4 ans, là ça ressemble à l'intégrale, avec 50 ans de différence. Les attentes des lecteurs n'ont pas évolué d'ici là ? Tu auras retravaillé des choses ?
Alors, j'ai retravaillé en ce sens que j'ai corrigé certaines lourdeurs de style, j'ai supprimé des passages qui étaient des rappels au chapitre précédent, puisque la forme de l'intégrale fait que c'est en un seul volume, c'est pas la peine d'expliquer ce qui se passait 50 pages avant. En revanche, j'ai joué la nostalgie, c'est-à-dire que j'ai laissé les choses en l'état telles qu'elles avaient été publiées. Est-ce que ça va intéresser le jeune lecteur ? Est-ce que ça va plutôt s'adresser aux gens qui ont découvert la science-fiction à travers Jarvis, il y en a. Je ne sais pas, mais bon, l'idée c'était quand même de rester aussi proche que possible du texte initial.
Demain, une maison d'édition te demande d'écrire à peu près la même chose. Au hasard, Scrineo qui vient de sortir une collection SF. Est-ce que tu envisagerais l'écriture d'un inédit en science-fiction de la même manière que tu l'as imaginé dans les années 70 ?
Alors, non, je ne pense pas, mais ça ne tient pas. Ça tient moins au lectorat, que je ne connais pas, je suis comme tout le monde. Je veux dire, j'ai une vague idée de ce qu'est le public, mais c'est peut-être un pur fantasme. Qu'à mon évolution, c'est-à-dire qu'effectivement, j'approcherai peut-être les choses différemment. Alors, je peux même dire que je le ferai, puisque je n'ai pas écrit que les Jarvis pour la jeunesse, j'ai écrit d'autres textes. Quand j'ai écrit les Jarvis, on m'avait donné un certain nombre de règles à pas trop bousculer. Je m'en suis largement affranchi depuis, donc voilà. Donc il y aurait peut-être un petit peu plus de... Enfin, j'aborderai les choses peut-être un petit peu différemment, mais... Bon, cela dit, les thèmes, eux restent d'actualité, hein. Le premier des Jarvis parle d'écologie et d'exploitation de l'animal. J'ai un texte sur les relations de la possession et du pouvoir. Enfin, bon, ça reste d'actualité aussi.
Du coup, là, coup sur coup, à quelques mois d'intervalle, tu as un écrit jeunesse, un écrit adulte qui sort, à chose près. Si demain, la même maison d'édition ayant deux collections adultes et enfants te demandait de sortir un inédit, c'est la même manière de travailler, hormis des sujets que tu ne peux pas aborder dans 5 heures, mais sinon.
Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Il fut un temps où j'avais des réponses, où je disais effectivement, c'est pas la même chose d'écrire pour la jeunesse ou d'écrire pour les adultes. La grosse différence, c'est que je ne peux pas supposer, ça je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire le premier. Je pensais que ce serait plus facile, plus rapide, et en réalité, je me suis aperçu que je m'adressais à des gens qui peut-être n'avaient pas les codes de la science-fiction, et qui donc pouvaient être surpris, voire rebutés par ce genre de texte. Donc il fallait que je les introduise dans la science-fiction sans les agresser tout de suite. Et effectivement, les premiers chapitres de Jarvis, à part l'apparition d'un animal qui n'existe pas, ça pourrait se passer en Bretagne au XIXe siècle. Donc, l'idée, c'est ça, c'est dire avoir un lectorat qui ne possède pas forcément les codes du genre, voire pas forcément les codes de la lecture. Mmh. Et donc, il faut pas trop complexifier, par exemple, la structure d'un texte. On ne peut pas faire des textes avec des retours en arrière trop nombreux, avec des, bon, il faut mieux que ce soit linéaire. Mais, bon. Plus ça va, moins je suis convaincu de ça. J'ai conscience quand j'écris pour la jeunesse, mais je ne mesure pas quel impact ça peut avoir sur mon écriture.
On parle de science-fiction là, or les médias actuels et l'actualité éditoriale actuelle montrent un accès à la littérature adulte par la jeunesse de plus en plus ouvert. Pour toi, est-ce qu'il y a un genre particulier qui s'adapte mieux à la jeunesse qu'un autre ?
Alors, franchement, non. Je me souviens de ce que j'ai lu quand j'avais 12 ans. Hein. Bon, je suis passé de la bibliothèque verte au livre de poche sans transition. Je pense que y a des sujets qui intéressent, d'autres qui intéressent moins les jeunes, d'autres qui ne comprennent pas, mais s'ils éprouvent quand même du plaisir à lire le livre, pourquoi pas. Je pense pas qu'il y ait une... Moi, j'ai été attiré, j'ai découvert la science-fiction à 15 ans, ça m'a vachement plu parce que c'était la seule littérature qui parlait des machines, alors que j'étais entouré de machines. Bon, maintenant, ça n'a pas fait de moi un ingénieur, hein, dire, c'est... Il y a des jeunes qui sont plus attirés par le policier parce que le côté intrigue, le côté... d'autres qui sont plus attirés par la romance. Je pense que c'est l'intérêt du jeune qui fait l'intérêt du genre.
On va passer au portrait chinois. Tu es auteur. Et on te donne la possibilité d'incarner un personnage de fiction, de roman SF. Celui que tu veux.
De roman SF ?
À moins qu'il y en ait un autre qui te vienne...
Non, spontanément, je pense à Cyrano de Bergerac, mais... bah oui, autant qu'à faire.
Autant qu'à faire, le meilleur.
En roman SF, c'est plus difficile.
Bah, Cyrano est allé sur la Lune, d'après ce qu'il disait.
Oui.
Adjugé. Dans tous les cycles éditer. On dit souvent qu'il ne faut jamais demander à un auteur quel est le livre qu'il aurait voulu écrire, et d'ailleurs ce n'est pas ce que je te demande. Mais dans tous les cycles qui a déjà été édité, on vient de chercher pour écrire un spin-off. Ajouter ta patte à quelque chose de déjà existant.
Ah ben, le cycle de Hyde. Allons-y, soyons ambitieux.
Tant mieux. Et alors, juste un spin-off où tu ressors tout à côté et tu fais l'univers étendu?
Ben, la même réponse.
Soyons ambitieux.
Ouais. Ou alors Terre-mer, c'est à peu près du même niveau.
Oui. Dans tes cycles, je vais te poser en une question, je vais te poser deux questions. Dans tes cycles à toi, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va embellir ce que tu as fait. Choisis un cycle et choisis un auteur qui viendra faire un spin-off.
Je pense que de toute façon, c'est l'univers lendemorien qui se prête le plus à l'exercice. Alors non, franchement, je sais pas répondre en disant qui. Y a des auteurs, effectivement, que j'aime bien,
trouver quelqu'un qui respecte à la fois ton univers.
Mais non, justement pas. Faut pas respecter. Et c'est en ça que je suis un peu embarqué. Des gens qui respecteraient, je pense que quelqu'un comme Jane Ford le ferait aisément. Mais non, s'il y avait effectivement ce genre de pratique, il faudrait quelqu'un qui bouscule, qui fasse autre chose.
La réponse est intéressante. Du coup, on va laisser la question en suspens pour ne pas vexer quelqu'un. On va passer à une question beaucoup plus simple. L'association, comme toutes les associations françaises, est extrêmement riche et avec beaucoup de potentiel, et on te donne la possibilité d'acquérir une œuvre d'art que tu puisses contempler tous les jours qui t'appartiennent. Qu'est-ce que tu voudrais ?
Y a un très beau masque africain qui est passé en vente il y a quelque temps, qui est un peu la quintessence de l'art africain, qui me plairait bien.
Une raison particulière à ça ou juste esthétique ?
Les deux, esthétique d'abord, mais c'est une esthétique que j'ai découvert par l'intermédiaire de ma fille.
D'accord.
Qui est africaniste et qui m'a initié à une autre façon de voir ces œuvres.
Très bien. Et comme je te prévenais, tu as la possibilité de choisir la musique qui clôturera cette interview.
Bon, on va mettre Blue Set Shoes par Elvis Presley.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Rock it! For the money, blue for the show. Three to get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe.